chaleur ici, mais ça fait du bien. Alors, on va parler du grand retour des dystopies. Trois petits points, ça se confirme. Je ne sais pas si c'est vrai que ça se confirme ou non. On en discutera avec Pierre Bordage, tout à fait à ma gauche, Karina Rosenfeld et Jeanne A. De Batz. Je ne sais pas comment on prononce, De Batz ou De Batz ? De Batz. Et ben, chacun a, dans son domaine, écrit des romans qui peuvent être des dystopies ou des récits post-apocalyptiques. Qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ? On va faire un peu d'histoire quand même. Ben, la dystopie, c'est l'anti-utopie. Vous vous rappelez que Thomas More avait écrit au XVIe siècle un bouquin qui s'appelle L'Utopie, Utopia, sans lieu, quelque part, pas de lieu. Donc quelque chose qui n'existe pas et qu'il faudrait établir, où la société est quasiment parfaite. Les siècles suivants, les siècles des Lumières, etc., ont engendré des utopies de ce genre. Et puis plus tard, les utopies sont devenues des utopies un peu sombres, parce que le monde que les utopistes nous révélaient était un monde fait peut-être de bonheur, mais de bonheur factice, et où la société commençait à s'implémenter dans tous les esprits, et où il fallait obéir et rentrer dans le cadre pour pouvoir être un bon citoyen. Et donc, dès d'ailleurs le 19e siècle, avec Souvestre, et puis après avec Jack London, etc., on a des dystopies ou des anti-utopies du genre Le meilleur des mondes, du genre 1984. Avant ça, Eugène Zamiatine et Karine Boyer, qui sont des utopies... des dystopies basées sur le communisme pour beaucoup, ou basées aussi pour le Huxley sur la société de consommation américaine, et donc qui ce sont des ouvrages qui, en fin de compte, accusent les sociétés en montrant les dérives possibles de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comme toujours dans la science-fiction, on va demain pour parler d'aujourd'hui. Et voilà, donc, les dystopies, il y en a eu encore beaucoup dans la science-fiction. Il suffit de penser à Fahrenheit 451, qui est sans doute un des bouquins les plus lus en France, puisqu'il est obligatoire dans les écoles. Je crois que c'est un des bouquins. Mais c'est un des romans de science-fiction les plus vendus en France.
Obligatoire, non, mais il fait partie de ce qu'on appelle les compléments de lecture à l'usage des collèges et lycées. Les professeurs peuvent choisir de le lire en classe en lecture analytique ou de le faire lire en lecture cursive ou alors éventuellement en fiche de lecture. Mais fondamentalement, oui, il y a trois grands livres qui sont dans la littérature conseillée. C'est 1984, Fahrenheit 451 et Que le diable l'emporte de Barjavel.
Oui, ou Ravage aussi, non ? C'est plutôt de l'apocalyptique, ça.
Oui, ben ça, c'est considéré comme... voilà. Si tu veux, il y a tout Barjavel, il y a La nuit des temps, oui, aussi, mais on n'est pas dans le sujet, là.
Et alors donc, ce que j'ai déjà cité, Orwell et Huxley, et puis Ira Levin, Un bonheur insoutenable, Limbo de Bernard Wolfe, et au cinéma, vous avez les grands exemples de Métropolis de Fritz Lang, un peu d'Alphaville aussi de Godard, et puis plus proche de nous, en 97, Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. Et donc, on va parler de dystopie à nous trois. Et il apparaît, d'après des critiques et des articles que j'ai vus, que la dystopie est un genre qui commence considérablement à faire le buzz, surtout aux États-Unis, avec des séries qui sont commencées depuis quelques années, comme Hunger Games, comme Uglies, qui est plutôt un Britannique, où des sociétés plus ou moins parfaites encarcanent les citoyens leur ne laissent qu'une toute petite part d'intimité ou pas du tout de part d'intimité. Et c'est évidemment la révolte des citoyens contre ce système et contre cette situation. C'est un genre qui s'est beaucoup répandu dans la littérature jeunesse et jeune adulte. Il suffit de penser à Hunger Games, évidemment, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Rami Malek qui fait des trucs du genre, et puis des tas de noms que je ne connais pas, je vous avoue.
T'as la merveilleuse trilogie de Marjorie Blackman, La couleur de la haine, qui fonctionne sur un renversement du racisme entre blancs et noirs, où les noirs sont à la tête de la société. C'est une pure merveille qui fonctionne extrêmement bien à partir de la quatrième et que je conseille.
Répète donc, le nom.
La couleur de la haine de Marjorie Blackman. Je ne me rappelle pas exactement dans quelle collection elle est, mais c'est vraiment une pure merveille et ça a été un des premiers romans dystopiques que j'ai vu arriver dans cette littérature-là, qui tenait vraiment la route, parce que je suis désolée, je pense que Hunger Games ne la tient pas. Voilà. Oui, ni littérairement parlant, ni idéologiquement parlant. Marjorie Blackman, elle, oui, ça, c'est de la littérature.
Alors, est-ce que cette littérature dystopique fait vraiment le buzz aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un retour, comme si ça avait disparu d'ailleurs, à la littérature dystopique, Pierre ?
J'en sais strictement rien. Je ne sais pas où on en est de la littérature dystopique. Je sais que j'en fais moi-même parce que j'ai envie d'en faire, parce que je pense que la dystopie répond à une des qualités de la science-fiction, qui est celle, tu l'as dit tout à l'heure, de faire réfléchir au présent. Donc c'est une sorte de projection de futur qui permet de grossir les éléments, donc de noircir les éléments, d'avoir un effet loop qui nous permet de mieux réfléchir sur ce que l'on vit dans notre présent. Et ce genre est idéal pour cela, et c'est pour ça qu'il est probablement symbolique de la science-fiction. Souvent, quand on pense science-fiction, on pense dystopie, on pense futur, une évolution d'un futur un peu sombre. Parce que justement ça sert d'avertissement. Ce n'est pas la seule fonction de la science-fiction, je pense, parce qu'il y en a deux autres. Il y a l'émerveillement, qui est un peu paradoxalement à l'opposé de la réflexion sur le présent, mais on passe par la case émerveillement pour projeter le lecteur dans une aventure extraordinaire à tous les sens du terme, ce qui permet la réflexion, puis l'interrogation qui vient peut-être en troisième plan, qui est l'interrogation métaphysique plus, et qui à mon avis rejoint les interrogations des mythologies, ce qui est mon grand dada. Donc voilà. Donc j'aime bien j'aime beaucoup les dystopies, de même que j'aime les post-apocalyptiques, parce que ça permet de mettre les hommes dans des situations, disons, difficiles, et ce qui va permettre aussi à des personnages de se révéler. Et là, on est un peu dans. Je vous parlais de mythologie et de principes narratifs de la mythologie. On est vraiment dans la définition même du héros. C'est que le héros se met en route quand tout va mal, finalement. Parce que quand tout va bien, il est extrêmement difficile d'écrire des utopies. Tu as parlé d'utopie tout à l'heure. Moi, si je commence un bouquin par Eric Furtereux, ils ont beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de mal. Sauf il y a un divorce et que les enfants après se droguent et tout ça, bon, etc. Mais donc ça devient une dystopie. Du coup, on ne peut pas écrire d'utopie intéressante, à mon avis. Enfin, c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut quand même, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ils furent heureux. Ouais, super. Et maintenant, il faut qu'ils soient un peu malheureux quand même, sinon il ne va rien se passer. Donc il y a une sorte d'accélération ou d'exagération du malheur, parce que c'est la fonction du héros définie, je pense, par Campbell dans Les héros aux mille visages, qui est que un héros, souvent, est quelqu'un qui se lève pour modifier les choses parce que les choses ne conviennent pas. Ce qui est aussi le schéma type narratif de la fantasy, d'ailleurs. Et ce qui aussi me permet de raccrocher en disant que, finalement, la science-fiction et la fantasy se rassemblent sur la science-fiction est elle-même une littérature initiatique. Et je pense que dans la dystopie, il y a une dimension initiatique forte. Parce que, enfin, c'est mon point de vue aussi, qui n'est pas forcément le cas de Huxley, par exemple, ou d'Orwell. Qui normalement doit ramener un semblant d'harmonie dans un monde qui est en pleine disharmonie. Je pense que c'est la fonction même du héros de faire cela, et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, c'est de partir d'un constat vraiment alarmant pour dire finalement on peut peut-être faire quelque chose par une action héroïque entre guillemets, mais qui est purement humaine finalement, pour ramener cette disharmonie perdue.
Oui, sauf que souvent dans les dystopies, le monde est apparemment harmonique et que héros veut lui redonner un semblant de liberté en rompant cette apparente harmonie.
Alors, je pense que tu es plutôt dans l'utopie. Là. Les utopies, pour moi, sont le pire des dystopies, parce que c'est le bonheur insoutenable pour tout le monde. Et que donc, effectivement, ça va souvent à l'encontre des libertés individuelles. Et je pense aussi que c'est le rôle du héros, c'est de ramener l'individu au centre du projet, c'est-à-dire de passer par une succession d'épreuves, encore une fois initiatique, pour pouvoir ramener un semblant de paix en lui-même, puis ramener un semblant de paix autour de lui-même. Si tu parles du meilleur des mondes, effectivement, on est dans une utopie qui tourne mal. Et c'est pour ça que je disais qu'il est impossible de décrire des utopies, sauf pour en dénoncer le côté totalitaire.
Il y en a une que je connais, tu sais, il y a Bilal dans La ville qui n'existait pas. Là, il raconte la construction d'une utopie sociale. Donc, on construit une ville sous bulle parfaitement autosuffisante. Et l'utopie fonctionne, même si certains vont la quitter à la fin du livre, parce qu'elle ne leur convient pas. Mais la plupart des habitants y restent. Et alors, c'est triste comme du Bilal, mais il construit quand même une utopie qui fonctionne. De la même façon, dans le village qui n'existait pas, ils vont dans le village, le vaisseau de pierre. Bilal, toujours, raconte cette histoire d'un village breton qui résiste encore et toujours. C'est une sale manie chez les Bretons. Donc, à l'envahisseur promoteur. Et ils vont partir, menés par l'Ankou, refonder un village utopique là-bas au Brésil, dans un endroit qui n'est pas très loin de la Cécilia, qui, elle, la Cécilia, c'est une véritable utopie qui a vécu, qui a été conçue par un Italien qui s'appelait Rossi, auquel je rends d'ailleurs hommage dans une de mes nouvelles, mais c'était il y a longtemps. Et l'utopie sociale a été réalisée sans l'injonction de bonheur qu'on retrouve chez dans 1984, sans l'injonction de perfection qu'on retrouve dans Bienvenue à Gattaca. Mais ce sont des tentatives au XIXe siècle. Donc l'injonction, c'est que tout le monde mange, qu'on s'occupe du collectif. L'individu existe, mais il doit se penser dans le collectif. Et tu parlais tout à l'heure, Pierre, de l'individu, du héros qui ramenait l'harmonie. Les utopies, c'est peut-être là qu'elles te hérissent d'ailleurs, les utopies disent qu'il y a aussi le nous qu'il faut prendre en compte. Lorsque c'est 1984, le nous écrase tout et c'est insupportable. Mais le nous doit exister aussi, et c'est ce qu'ont tenté de faire les utopies sociales du XIXe siècle, que ce soit à la Cécilia, que ce soit en Franche-Comté où il y en a eu un certain nombre, notamment à Salins-les-Bains où se trouve une cité absolument science-fictive. Je vous conseille de la googler. Ça s'appelle... c'est pas Salins-les-Bains, c'est... Arc-et-Senans. Non, voilà, c'est les Salines royales d'Arc-et-Senans. Vous allez voir des maisons rondes, des pyramides. C'est une ville absolument extraordinaire qui a été pensée pour un collectif qui y a vécu longtemps.
Les familistères et Godin, etc., quoi. Carina, on parlait tout à l'heure de littérature jeunesse et particulièrement de fantasy jeunesse en dystopie. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens, cette montée, ce retour, je mets ça entre guillemets, de la dystopie dans la littérature que tu connais le mieux ?
Oui, absolument. Je pense que d'ailleurs les dernières dystopies, la plupart de celles qui sont sorties ces dernières années, le sont en jeunesse. Je pense que c'est lié au fait que, comme disait Pierre, c'est du roman initiatique et souvent la littérature jeunesse... Va aimer les romans initiatiques, construire des héros jeunes qui vont écrire leur propre vie et le futur de leur société. Donc il y a eu Hunger Games, il y a Delirium, il y a eu Bliss, comme tu l'as cité, il y a Insoumise. Je crois que c'est ça, c'est Insoumise où on voit la fille qui sort d'une bulle comme ça. Ça. Moi j'en ai lu pas mal, moi j'aime bien.
La déclaration aussi de Gemma Manet.
Oui. Il y a aussi, alors dans un genre un peu différent, mais intéressant, le labyrinthe de Maze Runner de James Dashner, là, qui va sortir en film à la rentrée. C'est une autre façon d'écrire la dystopie, mais que j'ai trouvé intéressante. Donc moi, j'en ai lu, pas forcément parce que c'est de la dystopie, mais parce que voilà, on en parle et je suis curieuse de savoir ce que c'est.
Et donc, tu l'appliques aussi, tu en
alors,
fais.
Oui, alors c'est curieux, c'est que c'était pas du tout ma volonté première. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de la Symphonie des Abysses, qui est classée aujourd'hui en dystopie, parce que c'est vrai qu'on aime bien les cases, hein, donc on va dire c'est jeunesse, c'est dystopie, c'est ceci, c'est cela. Donc c'est vrai que ça a été classé en dystopie, ce qui ne me dérange aucunement. J'ai rien contre la dystopie, au contraire, puisque j'en lis beaucoup. Mais je ne suis pas partie avec l'idée d'écrire une dystopie. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Ah, et si j'écrivais une dystopie ?» J'ai eu cette idée-là il y a très longtemps. J'ai pas pu l'écrire tout de suite parce que j'avais plein d'autres projets. Et le temps que je l'écrive, qui prend des mois, le temps que le livre se construise et sorte, il est sorti en février. Et là, on me dit, c'est de la dystopie. Puis avec le recul, je me dis, oui, bah soit, ok, c'est vrai que vu comme ça, ça peut être très bien considéré comme une dystopie. Et allons-y, c'est de la dystopie. Mais je l'ai pas écrit vraiment en me disant, tiens, j'ai envie d'écrire une dystopie, j'en lis plein et ça me donne envie d'en écrire. Je n'ai pas réalisé forcément que j'utilisais certains codes de la dystopie quand je l'écris. Peut-être parce que quand j'ai eu l'idée, à ce moment-là, on n'était pas encore rentré dans ce retour de la dystopie, en tout cas en littérature jeunesse, où on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui. Donc ces codes-là, je ne les avais pas identifiés comme des codes dystopiques. Et c'est quand il est sorti qu'on m'a dit « Ah, mais c'est de la dystopie. » D'ailleurs, au Salon du Livre à Paris, on m'a mis aussi dans une conférence sur la dystopie. Au début, j'étais un peu étonnée en me disant « Mais je n'ai pas écrit une dystopie. » Puis après, en réfléchissant, je me suis dit « Si, quand même, on peut le voir de cette façon-là. »
C'est les dystopies sans le savoir.
Exactement.
Pierre, toi, tu mêles souvent la dystopie et le post-apocalyptique. C'est souvent après... un cataclysme quelconque, qu'une société tente de renaître, ou au bout d'un processus plutôt dystopique, une société est divisée entre les nantis sous bulle, dans un Paris sous bulle, et les miséreux autour. C'est quoi ? C'est la chronique des ombres ? Quelles sont tes dystopies ? Explique un peu.
Mon Dieu, mes dystopies. Alors, j'en ai fait plusieurs. Effectivement, la première, c'est Wang, je pense, qui est aussi une société séparée en deux parties bien distinctes, avec d'un côté la misère, d'autre côté l'opulence ou la pseudo-opulence, parce qu'à mon avis, c'est une fausse opulence, mais bon, ça, on pourra en discuter. J'en ai fait une qui s'appelle L'Ange de l'Abîme. En fait, quand on regarde le monde, on se dit, tiens, pourquoi on fait des dystopies ? Et quand on regarde le monde, on se dit, mon Dieu, tout va bien, finalement, dans le monde. Le nous dont tu parlais, le nous religieux, mais Vavanik se porte magnifiquement bien.
Pas religieux chez moi, hein, tu sais.
Non, mais le nous politique se porte magnifiquement bien. Ouais. Je veux dire, tous les nous sont un peu catastrophiques, faut reconnaître. Les dystopies, elles viennent d'elles-mêmes, parce que le monde est... Quand on regarde le monde fonctionner, quand on regarde les mécanismes... Oui, c'était ironique pour les nous. Pardon.
Mais le smiley...
Nous, se portent très bien. La dystopie vient naturellement parce que les futurs ne sont pas riants. Enfin, je veux dire, la science-fiction a été véhiculée des valeurs positives pendant la fin du 19e et tout ça, avec le merveilleux scientifique, c'est-à-dire la science, elle a apporté le bonheur à l'humanité. Et donc, on a des textes comme ça, très positifs sur la science et sur l'avenir, en disant, oui, finalement, on a trouvé la solution, c'est la science. Et puis, 14-18, et puis 39-45, et puis le nucléaire, et puis toutes ces choses-là, et puis les guerres industrielles, etc. Et d'un seul coup, cette idée de la science qui a apporté le bonheur, non, elle n'existe plus. Et donc, on est toujours dans ces dérives scientifiques ou technologiques qui sont censées apporter le bonheur. Là, on a par exemple le développement de la biotechnologie. Ça, c'est le truc le plus ultra, le nec plus ultra. Ça va nous apporter le bonheur. Mais non, ça ne va pas nous apporter le bonheur. Ou alors le fait d'être connecté en permanence, non, ça ne va pas nous apporter le bonheur. Ça risque simplement de créer des sociétés totalitaires, de plus en plus totalitaires, parce que de plus en plus contrôlées. Ce qu'a dénoncé d'ailleurs Orwell dans 1984, ce qu'a dénoncé Huxley dans Le Meilleur des Mondes. Enfin, ça ne fait pas de nouveauté du tout, hein, finalement. C'est juste que... Il y a des dérives permanentes de la science. Moi, j'ai écrit aussi, par exemple, Les Fables de l'Impur. C'est un bouquin purement dystopique et qui pousse la dystopie très loin, dans le sens où l'humanité disparaît elle-même, parce qu'à force de manipulation génétique, on fait disparaître ceux qui ont créé les manipulations génétiques. Donc oui, on est toujours dans cette dérive possible des technologies, comme il y a eu les dérives de la religion avant. Il y a toujours des dérives, il y a toujours des gens qui essaient de contrôler, qui essaient de tirer profit des choses, et au détriment du reste de l'humanité. Donc oui, les dystopies, elles s'imposent d'elles-mêmes, quoi. J'ai fait aussi L'Ange de l'Abîme, qui m'a été inspiré par l'11 septembre. En septembre 2001, c'est quoi ? Les avions qui s'écrasent dans les tours. C'est un truc qui était parfaitement prévisible. Parfaitement prévisible. D'ailleurs, je l'avais moi-même prédit. dans l'Évangile du Serpent, j'ai décrit un attentat islamiste à Disneyland Paris, Euro Disney du coup, parce que c'est un déséquilibre et ce déséquilibre va se manifester d'une façon ou d'une autre. Sauf que la réponse a été, il y a des très méchants là-bas, on va leur casser la gueule, pour des raisons pas forcément avouables. Donc je me suis dit, finalement, de cet événement qui est sidérant, parce que je l'ai vu en direct à la télévision, parce que j'avais un ami new-yorkais au téléphone à ce moment-là, et donc il me dit, regarde ce qui se passe à la télé, je regarde, bing, un avion qui s'écrase dans une tour. Il me dit, tiens, un film Hollywood. Et du coup, non, c'est réel et tout. Et je me dis, c'est sidérant. Donc, c'est stupéfiant. On devrait réfléchir à cet événement. Au lieu de réfléchir à ce qui a amené ça, qui était un mécanisme, finalement, qui est très prévisible, on dit, ben, y a des méchants là-bas, on va leur casser la gueule. C'est une pure dystopie. Je veux dire, la réaction des Américains en septembre 2001 est une pure dystopie. On va les casser la gueule à des mecs à qui on va prendre le pétrole en plus. Mais ça, c'est un bonus. Mais voilà, et la dystopie, elle était dans la réalité, elle était dans le. Et donc, je dis, ben, je vais pousser cette dystopie-là, puisqu'elle nous est présentée comme ça. Je vais la pousser avec l'enjeu de la Bible, mais je dis, je vais créer ce conflit qu'on appelle de tous nos voeux, un conflit généralisé entre musulmans et chrétiens. Et on s'aperçoit que ce n'est pas beau, ce n'est pas propre, ce n'est pas terrible, quoi. Donc voilà, c'est un peu le privilège des auteurs de science-fiction, c'est que alerté par des événements divers et variés qui secouent le monde, eh bien on pousse le bouchon encore plus loin pour dire bah, si vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça, et on va faire ça dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, et on va voir ce que ça donne, et vous allez voir, c'est pas plaisant. Donc voilà, c'est une invitation à la réflexion, et je vois que Jeanne veut réagir à fond là, elle est dans les starting blocks.
Alors je viens d'utiliser mon cerveau second, cette horrible chose connectée qui m'a bien de me renseigner. Sur deux dates, qui est en fait l'apparition de l'Ange de l'Abîme et un autre livre, celui de Jean-Marc Ligny, Djihad. Et alors, effectivement, ces deux salopards ont prévu le 11 septembre. Alors, Jean-Marc Ligny, il était vraiment dans les starting blocks parce qu'il était en 2000 qu'il est paru Djihad. Et en plus, je ne me souvenais pas exactement du titre. En fait. Comment dire ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de voir la technologie de Pierre, mais ça, nous le savons depuis très longtemps, tous les deux.
Depuis très longtemps. Et tu as tort depuis très longtemps.
Mais oui, mais bon. Mais bon, ça ne fait rien.
Georges, s'il te plaît.
Ta gueule, Georges, s'il te plaît. Merci, mon chéri. Tu es un chou. Alors, non, c'est rien, c'est entre Georges et moi. Voilà, c'est une vieille blague. Donc, je disais, on n'est pas d'accord là-dessus, dans le sens où moi, je ne parlerai jamais des dérives de la technologie, de la bioéthique, etc. Je peux parler des dérives de l'humain, ça oui. Le marteau, c'est vachement bien pour planter des clous, mais on peut écraser un crâne avec. Effectivement, Internet, c'est un instrument de contrôle. Il faut savoir aussi, et ça, on l'a déjà dit avec Yal il y a deux jours, c'est que quand même, c'est vrai que les États s'en servent pour nous contrôler, mais pas seulement les États, les méga-corpos qui savent tout ce que nous mangeons, tout ce que nous aimons comme fringues, qui nous rencontrons, etc. Mais fondamentalement, nous le leur demandons, en fait. C'est parce qu'on les autorise de tout ça. C'est parce qu'on aime ça, quelque part, le contrôle. Et pourquoi est-ce qu'on aime le contrôle ? Parce que à notre stade d'utopie, parce que nous vivons une utopie, soyons clairs, là, maintenant, tout de suite, vous vivez une utopie parce que le reste de la planète, là, il n'est pas tranquillement assis les pieds à l'aise, il n'a pas des sacs de bouquins, le reste de la planète, il est en train d'éviter les balles de sniper dans la boue en espérant pas choper le sida. C'est ça la vraie vie sur la Terre. C'est pas ce que nous vivons en Europe. C'est pas ce que vit d'ailleurs toute une partie des États-Unis, ce pays merveilleux qui est à la tête de la planète, dont les deux tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique utopique et il y a l'Amérique dystopique qui est juste une horreur et dans laquelle je ne vivrai jamais. Enfin, j'ai eu le choix, c'est cool. Le fait est que tout ça, nous l'échangeons, notre sécurité, nous échangeons notre sécurité, notre confort moral contre notre liberté. C'est à nous de voir, et nous en sommes seuls responsables. Et là, je ramène le « nous » par religieux. Nous sommes responsables du contrôle que nous subissons. Et nous sommes aussi responsables de la façon dont ça nous atteint. Je veux dire, si vous décidez d'être un lion folâtre et crétin sur Internet, c'est votre droit le plus strict. Si un jour un chef d'entreprise dans laquelle vous comptez aller vous ressort vos photos de fiesta sur Facebook et vous dit « Ah non, moi je prends pas un mec qui se met des saucisses de Strasbourg dans les oreilles », c'est bien fait pour vos gueules. Vous l'avez
cherché. Dans les oreilles, c'est raisonnable.
Non, c'est parce qu'il y a des enfants, je me suis retenue. Voilà. Il y a l'usage, les dérives de la technologie. Pour moi, ça n'a d'existence que parce que nous le permettons. C'est tout. nous permettons d'être contrôlés, et nous les changeons. Alors, pour le dire peut-être en pierre, je dirais, nous vendons notre âme au diable en échange de la fortune. Qu'est-ce que tu en penses, Karine ?
Elle n'aime pas les saucisses de Strasbourg.
Elle n'aime pas les saucisses dans l'oreille. Non, elle n'entend pas, elle a une saucisse dans l'oreille.
Là, c'est pas mon truc, la saucisse dans l'oreille. Aucun chef d'entreprise ne pourra montrer une photo comme ça de moi. C'est pas... non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je ne suis pas contre. Hein, c'est...
Ah, mais tu as le droit.
Non, je trouve ça intéressant comme point de vue. Disons que, effectivement, je pense que chaque outil qu'on invente, c'est l'homme qui va en faire quelque chose, qui va le pervertir. Ou l'utiliser à bon escient, comme tu dis, le marteau. Voilà. C'est bien qu'on ait des marteaux pour enfoncer des clous. Et puis, il y en a d'autres qui l'utilisent à d'autres choses. Bon, après, l'arme, un fusil, un pistolet, je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire de positif.
On peut aller à la chasse avec et manger.
Ouais.
Je suis jamais allée tuer, c'est pas super utile.
D'accord. C'est ça, exactement.
À part
c'est
chasser le veau géant, mais pas très comestible.
Mais voilà, moi, disons que comme je le ramène à la dystopie que j'ai écrite et qu'il y a très peu de technologie, on n'est pas du tout dans le contrôle technologique dans ma dystopie. Hein, on est sur une île paradisiaque, on est sur un atoll, la mer bleue, le sable blanc, les palmiers. Et on peut penser qu'on est dans un cadre absolument merveilleux et idyllique et qui représente le paradis. Quand on voit des cartes postales, on se dit « Oh, c'est paradis sur Terre, c'est là où je veux aller. » Et en fait, cette île est entourée d'un mur infranchissable. Les hommes ne peuvent pas en sortir, donc ils sont enfermés dans le paradis, ce qui est un instinct d'enfer. Et ils sont soumis à un règlement intérieur qui est écrit. Hein. Ce n'est pas un règlement basé sur de la science, mais on ne sait pas d'où il vient, pourquoi. Pourquoi ce règlement existe, écrit sur le papier. Et en même temps, ces hommes, alors que justement ils ne sont pas dirigés par la science, vont quand même se soumettre. Parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de cet atoll, et parce qu'ils se disent « Ok, qu'est-ce que... Voilà, c'est peut-être fait pour nous protéger. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on est là ? Et cette peur fait qu'ils vont appliquer bêtement. Donc on n'est pas du tout dans un monde de contrôle technologique.
Et ton grain de sable, alors, ça va être quoi ?
Mon grain de sable, c'est qu'il y a forcément des gens qui ne sont incapables de se soumettre à ce règlement, quel qu'il soit. Pas parce que... tout simplement parce que ce règlement est contre leur propre construction d'identité, en fait. Et le règlement, c'est on n'a pas le droit de créer, on n'a pas le droit de faire de la musique, on n'a pas le droit de dessiner, on n'a pas le droit de peindre, on n'a pas le droit de s'aimer, on n'a pas le droit de se toucher. Merci, c'est exactement ça. Et donc, il y a des gens...
Georges fait les sous-titres.
Et il y a des gens qui sont incapables de se soumettre à ça, parce que, par exemple, l'héroïne dans la première partie, c'est ce que j'appelle une réminiscente, hein, je crée un mot, parce qu'elle a des airs de musique qui lui viennent dans la tête, parce que quand elle a 4 ans... Bah, elle s'est mise à chanter et que tout le monde lui est tombé dessus et lui a dit « Mais tu n'as pas le droit de chanter. » Mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit. Là, c'est comme ça. Et j'ai des personnages qui sont incapables de se soumettre. Et donc, c'est à la fois une quête d'identité, une quête de liberté, puisque on veut passer derrière ce mur. On veut sortir de ce monde qui pourrait être paradisiaque et qui est infernal, en réalité. Donc là, je suis complètement en dehors de l'aspect technologique et de tout ce contrôle par la science. Je suis vraiment dans... Quasiment, mais c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que ces hommes qui subissent ce règlement intérieur l'acceptent. Tout le monde pourrait se rebeller en se disant, mais et si on veut pas ? Et pourtant, c'est tous des moutons.
Non, mais on n'a jamais eu besoin d'engrenage pour se faire du mal.
Voilà,
les hommes,
c'est ça, exactement. Ça, donc on est quand même dans cette soumission de, mais ça a toujours été comme ça, donc ça doit continuer à être comme ça, c'est la tradition, c'est ce qui nous a permis de survivre, de continuer dans cet environnement voilà, où il faut chacun... à son poste, à son travail, et sinon la société s'écroule, et donc on ne sort pas de ce schéma. Et évidemment, il y a toujours des gens qui doivent en sortir, qui doivent exploser le cadre et qui doivent dire « Non, je suis larger than life ».
Attends, j'ai envie de poser une question. Je suis en train de te piquer ta table ronde.
Non, c'est très très bien, il n'y a plus rien à faire.
Je suis vraiment désolée. Dis donc, Pierre, ce que j'aimerais bien, c'est que... Hein ? Ah oui, non, j'aurais voulu la faire, mais du coup, on m'a réveillée. Et bon.
Une petite saucisse, peut-être.
Je l'ai amenée là. C'est pour ça que j'y pensais. Ce que j'ai envie de te demander, c'est à ton avis.
À qui tu poses la question ?
À toi. C'est à ton avis, comment on en sort de la dystopie ?
Pourquoi ça tombe sur moi ?
Tu sais très bien pourquoi je te pose la question.
J'ai un embryon de réponse, mais ma réponse étant une exploration perso, je ne peux pas l'imposer à tout le monde, ce qui serait de l'utopie et donc qui deviendrait une dystopie. Et donc, on ne va pas partir là-dessus, ouais, dans un cycle infernal des choses. Bien sûr, parce que le problème des gens qui essaient de réfléchir au bonheur de l'humanité impose des choses à l'humanité dont l'humanité n'a pas forcément envie. Il suffit de regarder, par exemple, un livre qui est très éclairant pour moi, qui est un petit livre qui s'appelle « La ferme des animaux » du même Orwell, qui est vraiment la description exacte, parfaite d'une révolution et comment cette espèce d'aspiration à l'utopie se mue en une dystopie encore pire, quoi, finalement, parce que ce sont des mécanismes. Et tant qu'on n'étudie pas les mécanismes, quels qu'ils soient, parce qu'on parle de contrôle technologique, avant c'était contrôle religieux. Il y a toujours une forme de contrôle, finalement, puisqu'il y a des gens qui ont intérêt à contrôler les autres pour X raisons, surtout pour des raisons de matériel, d'ailleurs, souvent. Et la seule façon de s'en sortir pour moi, encore une fois, mais ça ne regarde que moi, c'est l'expérimentation individuelle, donc l'aspiration à la liberté individuelle, parce que encore une fois, une expérience ne peut pas se partager. C'est un petit peu le rôle du héros, justement, c'est lui qui va explorer les choses, ou le rôle du chaman dans les tribus amérindiennes, c'est-à-dire que lui va explorer pour ramener quelque chose. Mais ça, par définition, ça ne peut pas se partager, donc... Ce que j'engage, moi, pour essayer de se sortir de ces mécanismes-là qui sont là depuis la nuit des temps et qui se reproduisent toujours et qui sont déjà posés dans les mythologies. C'est pour ça que je raccroche la science-fiction à la mythologie, parce que je pense que ça fait partie du troisième intérêt, c'est l'interrogation fondamentale sur l'humain, c'est de sortir de tous les systèmes de conditionnement. Ça veut dire que vous pouvez très bien être connecté à Internet sans être conditionné par Internet. C'est une question d'attitude mentale par rapport à tout ça. Mais vous... observez-vous ou pas, comme vous voulez, quand on s'observe, disons, on se rend compte qu'on est bourré de conditionnements. On a des conditionnements sociaux, on a des conditionnements familiaux, on a des conditionnements historiques, on a des conditionnements astrologiques. Ah, la science-fiction, on va hurler. C'est juste pour une petite provocation. Non, je plaisantais là-dessus. Donc on a toute forme de conditionnement et c'est prendre conscience des conditionnements en permanence qui fait qu'on va pouvoir avancer faire des pas vers la liberté intérieure. C'est la seule qui nous reste, la liberté de penser, comme dirait l'autre, là, qui chante. Mais pas pour les mêmes raisons, c'était pour des raisons fiscales, donc c'est un peu idiot. Donc voilà, on a cette liberté-là que personne ne peut nous retirer, qu'on essaie de nous retirer d'ailleurs, et que la biotechnologie essaiera de nous retirer d'une façon ou d'une autre, parce que ce sera le contrôle de la pensée. Donc il faut, à mon avis, privilégier ce refuge-là. Si tu veux, je confonds peut-être l'utilisateur et l'outil, mais oui, effectivement, évidemment, c'est ce qu'on en fait, bien sûr. La biotechnologie en elle-même est neutre. Et certainement, on peut apporter de très bonnes choses à l'humanité, c'est pas ça le problème, mais c'est de la façon dont on va s'en servir qui est important. Et donc, c'est là où il faut réfléchir au conditionnement. Et notre premier conditionnement, c'est de penser qu'on va pouvoir être heureux par des éléments extérieurs. C'est à partir du moment où on commence à penser ça, on pensait que la baguette magique des de la fantaisie ou des contes va nous métamorphoser, nous rendre heureux. À partir de ce moment-là, on est prêt à commencer à accepter des choses, des miroirs, de faux miroirs ou des illusions qui vont être si vous avez de l'argent, vous serez heureux, si vous avez telle maison ou tel bord de la mer, vous serez heureux, si vous êtes connecté à Internet aux 20 mégawatts, super génial, vous allez être heureux. Or, c'est faux, c'est bidon. Dans les sociétés les plus technologiques, c'est là où il y a le plus d'antidépresseurs. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'espèce de bonheur promis par les sociétés.
En même temps, en Syrie, il n'y a pas beaucoup de pharmacies. Hein.
Aussi, mais je pense que sur les après il y a c'est l'histoire de pyramide de Maslow et sur la satisfaction des besoins primaires, enfin, etc. Bon, voilà, alors, c'est vrai que quelqu'un qui change à manger ne change pas forcément à déprimer, ceux qui n'ont pas le temps de déprimer, ouais. Bon, bref, c'est de réfléchir à toutes les formes de conditionnement qui nous maintiennent dans des systèmes de pensée et qui font qu'on n'avance pas et qu'on reproduit sans arrêt, siècle après siècle, les mêmes mécanismes, même s'ils ils se revêtent d'habits nouveaux que sont la technologie, mais pour moi, c'est les mêmes mécanismes que la religion. Pour moi, la science, la technologie sont filles de la religion, enfin, etc. C'est exactement les mêmes choses. Le Dieu unique qui va nous apporter le bonheur sur son nuage, ça ne marche pas. De la même façon que les derniers ajouts technologiques qu'on va faire, ça ne marchera pas non plus. Je vous préviens, ça ne marchera pas non plus. Il faut qu'on trouve autre chose. Et moi, ce que j'engage les gens, enfin, je pense que l'essentiel de mes bouquins, c'est ça, c'est d'essayer de repérer en eux les conditionnements qui les empêchent d'avancer, tout simplement, d'aller vers leur propre liberté. Il n'y en a pas d'autre, finalement. Parce que si vous dites « ma liberté, c'est celle des autres », vous rentrez dans l'utopie et vous commencez à rentrer dans l'idéologie, ce qu'a fait Robespierre pendant la Révolution. La figure de Robespierre, on pourra en parler. D'ailleurs, on m'a beaucoup reproché par rapport à l'enjeu mineur, la façon dont j'ai traité Robespierre. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui veut imposer le bonheur aux autres. C'est-à-dire une tête qui dépasse, on la coupe, parce que c'est insupportable pour quelqu'un qui veut imposer une vision à tout le monde. Il faut que ce soit la même vision. C'est impossible. Et je suis vendéen, donc... Imagine un peu que c'est vraiment très impossible. Voilà, ça ne respecte pas du tout ce à quoi aspirent les peuples. Les peuples eux-mêmes ne savent pas à quoi ils aspirent finalement. Ils aspirent simplement au bonheur. Mais comment trouver le chemin du bonheur? Voilà, c'est la question qui est posée par les mythologies, par la science-fiction, par la fantaisie, par tous ces textes-là qui utilisent le procédé imaginaire.
En fait, quand vous écrivez des dystopies, Karina, c'est pour vous montrer que vous avez compris ce qui se passe. Ou pour et donc pour vous donner bonne conscience, ou c'est pour engager le lecteur à réagir lui-même.
Moi, je comprends rien à ce qui se passe. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein, qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends rien. C'est pour ça que j'essaye de démêler les fils. Je cherche pas non plus ni à me donner bonne conscience ni à donner bonne conscience au lecteur. Déjà, comme j'ai dit, je me suis pas levée un matin en me disant je vais écrire une dystopie et donner des leçons. C'est pas du tout mon propos. Je suis là pour raconter une histoire. Il s'avère qu'après, cette histoire elle a tendance à être dystopique parce que effectivement, créer un univers bancal comme celui-là qui paraît parfait mais qui est complètement bancal, on est dans l'imaginaire mais ça ressemble à la réalité. Et c'est tout simplement essayer de pousser une réflexion à travers un conte, une histoire. Mais je suis personne pour donner des leçons aux autres. Hein. Attention, oulala, j'arrivais avec mes grands sabots. Bon, moi, je sais tout, j'ai la bonne parole. On retombe dans tous les pièges.
À la limite, tu t'autorises à poser des questions.
Je peux poser des questions. Chacun peut trouver sa réponse. Voilà. Je vais soulever des choses. Par exemple, ce qui est encore étonnant, c'est le calendrier qui fait les choses. Le bouquin est sorti en février, en plein moment où il y avait toutes ces histoires délirantes sur la théorie des genres qui n'existe pas. Toutes ces choses-là où les gens descendaient dans la rue et flippaient pour des trucs en disant...
Il courait après un fantôme.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, et moi, ça parle complètement de la construction de l'identité sexuelle... Dans ce bouquin, à tel point que mon éditeur l'a envoyé à Copé avec un petit mot en lui disant « pour vous aider dans votre recherche des ouvrages déviants ». Ok, merci pour la promo.
Mais s'il s'en occupe, tu vas crever le plafond.
Mais c'est ça, mais j'attends qu'il en parle. Je me dis « mais Copé, on te l'a envoyé depuis février, mais peut-être qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de gens tout nus dedans, elle n'arrive pas à lire. »
T'aurais dû dessiner des fesses, voilà. Voilà,
moi j'ai parlé de ça, et comme je l'ai dit, cette idée, je l'ai eue il y a très très longtemps. Le hasard du fait, comme je dis, le temps que je me mette à l'écrire, le temps que je le termine, le temps qu'il sorte, finalement on arrive boum en plein milieu de tout ça, tout ça poil machin et tout, ok, et bon bah voilà, et là je vais toucher à des choses, et bon, au début j'étais un peu inquiète, je me suis dit j'aborde ces sujets là dans un univers dystopique parce qu'il est interdit de s'aimer et je vais pas tout spoiler s'il y a des gens que ça intéresse, mais on est dans un univers où je vais créer une histoire d'amour entre deux êtres qui n'existe pas dans notre société. Voilà. Donc, quelle évolution vont avoir, quelle est la part de leur identité sexuelle, comment ils vont la construire par rapport à leurs propres ressentis, toutes ces choses-là, et comment ils vont se permettre de s'aimer alors qu'on est dans un monde où on n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est des questions que je pose. Et je ne cherche pas à dire ça, c'est génial, c'est mieux, c'est moins bien, etc. Je donne ce cas. On est dans une histoire d'amour qui va au-delà de la sexualisation. Est-ce qu'on peut s'aimer juste parce qu'on aime une âme? Pas parce que c'est un homme, une femme, un trans, un je sais pas quoi. On s'en fout, on aime la personne qui est en face de nous, quoi, c'est tout. Et c'est ça que j'essaye de faire passer en disant on peut aimer tout le monde. On peut aussi détester tout le monde quand on a vraiment envie, mais voilà. Et là, boum, j'arrive en plein dans tout ça. Donc voilà. Bon, malheureusement, Copé l'a pas encore lu, visiblement. Donc, c'est pas
lui envoyer une boîte de saucisses de Strasbourg, mais je ne sais pas s'il va comprendre l'allusion.
Non,
c'est pas sûr.
On peut lui envoyer l'enregistrement du débat en même temps pour qu'il saisisse. Mais voilà, donc je ne sais plus pourquoi je dis tout ça.
Tu sais.
Pourquoi je dis tout ça? C'était quoi le début de ma pensée? Je ne sais plus. Je me suis perdue en chemin, je suis désolée. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que je dis on va créer un univers, on va poser des questions, les gens peuvent en recevoir la réponse. Il y a peut-être des gens qui vont être très très choqués par ce que j'écris et qui vont aller dans la rue pour
brûler protester. Ton
voilà, exactement. Jusqu'ici, j'ai eu des super retours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris cette histoire-là et qui sont venus me voir en me disant mais ça m'a touchée, c'était hyper original et j'aurais jamais cru lire une histoire d'amour comme ça. Et là, on va au-delà des clichés, on va au-delà de toutes les limites. Donc, je propose quelque chose. Voilà, je propose et je dis, et si on n'était pas homme ni femme, mais qu'on s'aimait quand même. Voilà. Et Ensuite, chacun y voit sa réponse, chacun y voit...
Je pense que c'est l'essence même de l'auteur, c'est d'explorer.
Exactement, hein. C'est pour ça que moi, je ne cherche pas à imposer une réponse, je ne cherche pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'arrive, j'ai le savoir infusé, et écoutez-moi, je suis le Messie, loin de moi cette idée. Mais, comme tu disais, je propose des... Voilà, je mets un monde et je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce monde? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis après, j'ai les retours des lecteurs qui, jusqu'ici, ont, en tout cas, ou ceux qui n'ont pas aimé ne sont pas venus me voir, mais en tout cas, ça a été positif. Ça m'a rassurée quand même sur l'humanité.
La plupart des héros de ces dystopies, que ce soit Wang, la jeune Trash, etc., ce sont des jeunes. Est-ce que ceux qui vont pouvoir jeter le grain de sable dans la dystopie, faire peut-être bouger les choses, ça ne peut être que des jeunes, Jeanne?
Sur ça, j'en suis pas du tout persuadée. Là, j'étais en train, je suis pas du tout persuadée que les jeunes soient forcément la base de la révolte contre la dystopie. C'est clair que ça leur est sûrement plus facile et qu'on peut sûrement plus facilement imaginer quelqu'un qui est en construction et qui donc commence à se cogner la tête contre les angles qui dépassent parce qu'il n'est pas encore tout à fait intégré dans un monde qui a déjà été créé avant lui. C'est évident que l'adolescent, dans sa quête de lui-même, va interroger la société autour de lui et décider si oui ou non elle lui convient. Donc c'est un héros carrément, qui est presque obligé. Je ne me rappelle pas qu'il y ait un roman de SF avec un vieux, mais...
On tous meurent.
Ah, mais si, il y a... dans Terry Pratchett, ils ne sont pas... Et Terry Pratchett, c'est de la SF sans les boulons. Mais il me semble bien qu'il y a Cohen le barbare qui part avec tous ses vieux sauver une princesse. Mais les héros vieux qui changent le monde, j'en ne vois pas beaucoup. En fait, ils ont toujours des personnages à la Obi-Wan Kenobi ou à Gandalf. Ils sont là pour pousser le jeune crétin dans le bon sens, mais finalement, peut-être que c'est eux qui font la révolution. Peut-être que c'est Gandalf et Obi-Wan qui rétablissent l'ordre et l'univers. Parce que finalement, ils laissent le jeune crétin en première ligne et... Bon, ils crèvent tous, finalement. Gandalf, il a une première mort, quand même. Et après, c'est un jeune magicien blanc qui réapparaît du combat après avec le Balrog. Par contre, Obi-Wan Kenobi, on n'a plus droit qu'à un fantôme, après. Mais est-ce qu'il faut être jeune? Il faut être soi. On peut se prendre une baffe phénoménale à 40 ans et changer totalement et devenir un jeune parce qu'on réessaie de se définir. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible.
Parce que le jeune est plein d'énergie, tout simplement. Il y a beaucoup plus d'énergie que quelqu'un de plus âgé. C'est un personnage âgé qui vous parle.
Je ne peux pas faire la révolution là en sortant.
Pas du tout, non. Je laisse ça aux jeunes. Justement, les jeunes, faites la révolution s'il vous plaît pour moi parce que je suis un peu fatigué. Oui, c'est le rôle même du héros. Enfin, c'est celui qui va changer les choses. Souvent, les personnes plus âgées sont établies quelque part et donc ont plus de certitudes.
Il
suffit de voir comment la publicité s'adresse aux adolescents pour comprendre qu'il y a une énergie phénoménale là qu'ils essaient de capter tout de suite. C'est-à-dire pour l'empêcher d'aller vers autre chose.
De ruer,
exactement. Oui. Et l'adolescence, c'est pour ça, il y a souvent, d'ailleurs, dans les traditions amérindiennes, tout ça, c'est que l'adolescent subit une initiation très forte. Parce que c'est cette énergie fondamentale qui donne la puissance de changer les choses, de devenir un guerrier finalement, de devenir quelqu'un qui combat. Donc oui, souvent le héros est jeune parce que c'est sa nature même, quoi. Enfin, dans toutes les mythologies, dans les contes, dans le Graal, on l'appelle le niais, c'est-à-dire c'est pas le stupide tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais plutôt celui qui est innocent. Oui, le naïf qui n'a pas d'a priori. Donc un jeune a beaucoup moins d'a priori qu'un ancien, à mon avis. Simplement parce qu'il est moins martelé par la vie, hein, et donc il a cette énergie primordiale qui fait qu'il va pouvoir changer quelque chose.
Et Carina, il y a non seulement l'énergie de la jeunesse, mais l'énergie de l'amour aussi qui permet de modifier le monde.
Oui, totalement. D'ailleurs, je pense que la dystopie qui en parle le plus, c'est Delirium, hein, puisqu'on est dans une société où on considère que l'amour est une maladie et qu'il faut la guérir et que c'est l'amour, les émotions et les sentiments qui ont entraîné l'homme vers leur perte. Donc on les opère du cerveau pour leur ôter cette capacité à ressentir. Et on leur dit maintenant, voilà, vous ne ressentez plus rien, vous êtes beaucoup plus heureux. Et, et, on, Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette trilogie, c'est que l'héroïne, au départ, elle est d'accord avec ça. Parce que justement, on lui a rentré à coups de marteau dans la tête que c'était ça le bonheur, que c'était comme ça. Et elle y croit et elle attend avec impatience son opération pour pouvoir rentrer dans le moule et être comme tout le monde et être rassurée sur sa propre condition jusqu'au jour où elle tombe amoureuse. Et c'est l'amour qui va la forcer à tout bousculer et à décider que finalement, c'est chouette d'être amoureux. Et ça lui fait du bien et elle n'a pas envie d'être opérée. Elle n'a pas envie qu'on lui ôte cette richesse et cette énergie qui est insufflée par ses sentiments. Donc je trouve que cette trilogie, pour le coup, elle est l'illustration parfaite de ce que tu viens de dire. Et voilà, donc c'est magnifique d'ailleurs.
J'ai juste un petit problème, moi, là, depuis le départ. C'est, on parle de bonheur. Et j'ai toujours eu un énorme problème avec ce mot-là. Dans le sens où j'ai jamais cherché le bonheur, j'ai jamais attendu du monde qu'il me l'apporte, et surtout pas de l'amour en plus, puisque la littérature m'a démontré par A plus B que ce qu'on pouvait attendre de mieux de l'amour, c'est juste la fin, là ils peuvent se marier, et après surtout on ne t'en parle pas. Tout ce que j'ai écrit des utopies, moi. J'ai pas écrit, en fait, de dystopie. Mais
attention, on n'est pas en train de dire que ça apporte le bonheur, on dit que ça apporte l'énergie.
Oui. Non, mais, je parle du mot, là. Je parle pas de ce que tu... Je rebondis pas exactement sur ce que tu disais. Mais c'est parce que c'est vrai, ça fait un moment qu'on le redit, ce mot-là. Notamment, Pierre parlait d'Internet, de la technologie qui pouvait apporter le bonheur, etc. Effectivement, non, j'y crois pas à une seconde à ça. Je ne crois pas que la technologie puisse nous apporter l'accord avec nous-mêmes, la construction de nous-mêmes. Ça, c'est un truc que je ne lui ai jamais demandé, en fait. Pas plus qu'à la possession. Pour moi, ça n'a jamais été lié. Le bonheur, c'est l'individu qui le trouve au centre de sa personne. Et puis, point barre, c'est certainement pas l'extérieur qui peut le lui imposer. Il peut même refuser de l'obtenir. Je connais suffisamment de gens dépressifs pour savoir que parfois c'est trop de cette coupe-là. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, quand on définit la dystopie comme quelque chose qui prétend nous apporter le bonheur, et déjà ce mot-là, j'y arrive pas trop. Mais en même temps, je n'ai jamais écrit de dystopie. Moi, j'ai toujours décrit des utopies et des utopies fonctionnelles, en ce sens où que ce soit... Trash, tu en parlais, c'est un monde post-apocalyptique, mais ce qu'elle crée, mon héroïne, c'est une utopie. C'est une utopie sociale dans les poubelles. Quand dans Fugue et Fragrance ou Temps du dépotoir, qui est une nouvelle que j'ai écrite il y a un moment de ça, qui se retrouve dans un recueil... anciens, mes héros qui vivent dans une station spatiale déglinguée autour d'un trou noir vivent une utopie collective basée sur l'entraide et la bonne volonté. Il n'y a aucune contrainte à l'intérieur, sinon celle de la survie, parce que quand même dans l'espace on ne fait pas n'importe quoi non plus. On est libre d'aller se balader à poil dans le vide, mais on sait très bien que ça ne va peut-être pas bien finir. Il leur arrive de prendre des décisions drastiques par rapport à certains individus qui mettent en danger la vie des autres. Mais ça s'arrête là, l'interventionnisme chez mes héros. Et leur problème, c'est qu'on vient leur imposer des gens extrêmement bien intentionnés, veulent les sortir de leur station pourrie qui craque de partout pour les installer bien à l'abri dans des habitats confortables où justement peut-être ils seraient heureux au lieu de passer leur temps à rattraper les fuites d'air, les décompressions, etc. Mais eux, ils veulent pas du monde contrôlé, sécuritaire qu'on leur propose. Et donc, ils ne refusent d'échanger leur sécurité contre leur liberté. Donc, dans ce cas précis, j'ai créé une utopie qui n'écrasait personne. De toute façon, ils peuvent partir quand ils veulent. Hein. L'espace est grand et ils ont la possibilité de s'en servir. Ça, c'est ma deuxième utopie. Et dans Pleasures, qui est le pendant, qui est l'avers de la balade de Trash, c'est la réussite de la balade de Trash, d'une certaine façon, Pleasures. Les gamins vivent aussi une utopie sociale dans un monde clos. Le bon problème étant le suivant, c'est que je n'arrive pas à croire que on fasse un groupe, que quand le groupe est grand, il ne marche pas sur les individus. C'est pour ça que toutes mes utopies sont des petits groupes. Je ne les conçois fonctionnels que comme ça, en fait. Voilà.
Mais en fait, on parle de dystopie depuis bientôt une heure, et cette étiquette, ça enlève peut-être aussi aux écrivains le droit à la liberté. Est-ce que vous vous inscrivez dans un genre qui est la dystopie, ou bien vous inventez des histoires et puis hop, on verra bien si quelque universitaire quelconque va lui coller une étiquette ou une autre, Karina?
Moi, comme dès le début, je l'ai dit, hein, je ne me suis pas dit je vais écrire une dystopie. Et quand il est sorti, on m'a dit ah bah c'est une dystopie. Je fais bon, si vous voulez le mettre dans la case dystopie, mettez-le dans la case dystopie. Moi, j'ai jamais parlé, quand j'ai commencé à parler de cette histoire, j'ai dit je suis en train d'écrire une nouvelle, un nouveau roman, et quand j'en ai parlé avant qu'il sorte, je n'ai jamais utilisé ce mot. Jamais, jamais. C'est après qu'on est venu me trouver en me disant tu as fait une dystopie. Comme je dis, j'ai pas de soucis, surtout que je sais qu'on est dans un monde où on aime bien les labels, les étiquettes, les cases. T'es écrit dans telle tranche d'âge, t'es écrit dans tel genre d'univers, tel.
Dans tel genre.
Voilà, dans tel genre. Non, mais je trouve que je suis un peu à cheval. Non, c'est ça.
Bon, non, okay. Mais tu sais bien qu'il ne faut pas être à cheval sur les gens, c'est très, 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 très mal.
Bah, moi, j'aime bien Dada, tout ça. Et bon, mais bon, voilà. Donc, on m'a dit c'est une dystopie. Bah, si vous voulez, c'est une dystopie. Après, j'ai. Voilà, d'accord, ok. Mais comme je dis, ce n'est pas mon intention première. Je ne me suis pas dit, je vais faire comme tout le monde. En ce moment, c'est à la mode, je vais faire une dystopie. Et d'ailleurs, ma première.
Tu profites quand même. Hein,
oui, si je profite finalement.
Si ça marche.
Si ça peut aider, tant mieux. Mais c'est vrai que je ne le revendique pas à aucun moment.
Pierre ?
Non, c'est pareil, je fais tout comme Karina, de toute façon, depuis le début. Depuis le début de ma vie, je fais tout comme Karina.
C'est bien petit scarabée.
Oh, voilà, Gandalf.
Oui, non, pareil, j'ai envie d'écrire une histoire dans un contexte particulier. C'est après que je me rends compte que des gens ont dit que ça appartenait à tel genre. La fois que j'ai écrit Les Guerriers du Silence, je ne savais pas du tout que je faisais un space opéra. Donc, c'est pour dire, je suis parti de très très loin. On m'a dit, je ne savais même pas que je faisais de la science-fiction, à tel point que je l'envoyais chez Gallimard. Donc.
Mais tu ne fais pas de la science-fiction.
On
l'a
envoyé très rapidement, là. J'ai eu l'impression d'un aller-retour. Comme il est assez lourd, en plus, ça fait mal. Donc, j'ai envoyé au Seuil, à tous ces gens-là, quoi, bien comme il faut, les germanopratins. Et non, ça ne correspondait pas du tout. Donc, moi, j'ai envie d'une histoire, d'explorer un univers. C'est toujours une exploration de l'humain, quoi qu'il en soit, de l'âme humaine. Après, on l'abysse, on fait de l'historique, du passé, du futur, du présent, de l'Uchronie, on fait ce qu'on veut, mais on parle toujours d'humain, on raconte des histoires, tout simplement. Et c'est après, pour des raisons éminemment économiques, ça a été classé dans les librairies par genre, et on se retrouve classé dans un genre qui est un piège, à la fois un piège et un avantage, parce que le lecteur identifie tout de suite le genre, et le lecteur qui aime le genre sait où aller chercher. Et un piège, parce qu'il y a des gens qui n'iront jamais voir là, parce que par principe, ils ne vont pas voir dans ce genre-là. Bon, voilà. Donc on est toujours entre ces deux possibilités-là, c'est-à-dire genre ou pas genre. On a fait l'expérience avec, j'ai lu pour les Fables de l'Impur, on l'a sorti en littérature générale à un moment. Donc c'était le grand risque. Waouh! Et donc ça n'a pas marché du tout. Donc ça calme tout de suite. Donc on a remis SF. Ou fantasy, parce que du coup, les gens sont identifiés, et puis voilà, faut accepter ce principe-là. À la limite, il ne faut pas avoir honte de faire ce qu'on fait, c'est simplement de faire son boulot le mieux possible, et puis d'essayer de raconter la plus belle histoire possible, en espérant que des gens qui ne vont jamais dans ces histoires-là, par principe, parce qu'ils ont des a priori, croyant que la science-fiction, ce sont des robots qui rencontrent des extraterrestres dans l'espace, avec beaucoup de bruit et de sabres laser.
T'as oublié Godzilla.
Et Godzilla aussi, avec des boum, boum, boum. Et croyant que la SF, c'est que ça, ne vont pas. Bon, un jour, peut-être qu'ils auront la chance, ou on aura la chance qu'ils ouvrent un de nos livres, et ce sera à nous, les auteurs, d'avoir fait correctement le travail pour les accueillir dans ce livre-là, point. C'est à eux de faire la démarche. Nous, on fait ce qu'on peut, on écrit des histoires le mieux possible, avec le plus de cœur possible, en espérant que le plus de monde possible peut entrer dans ces histoires-là.
Merci à ces raconteurs d'histoire que sont Jana de Batz, Karina Rosenfeld et Pierre Bordage. Merci à la salle qui a été bien attentionnée. Et à tout à l'heure. Merci pour cette...